Je vais maintenant passer la parole à Christophe Guénard, donc Christophe qui va présenter la dernière session de notre webcast dédié au legal. Christophe, je te laisse la parole.
Oui, merci beaucoup Suzy et merci à l'équipe. Alors donc, dernier thème, actifs numériques, quels ancrages juridiques pour une réalité protéiforme? Avec de nouveau notre associé Nicolas Mordant-Crook et Pierre Birotteau. Alors, pratiquement, cette dernière session couvrira les enjeux et les complexités juridiques qui concernent les actifs numériques, avec des noms aussi étranges que crypto-monnaie, utility tokens, security tokens. Donc, c'est un sujet sur lequel d'ailleurs notre équipe a déjà communiqué il y a quelques mois en lien aussi avec des enjeux de données personnelles. Mais donc, rebonjour Nicolas et bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors, Nicolas, jetons, crypto-monnaie, utility tokens, security tokens. Bon, tu m'as perdu, non, tu ne m'as pas perdu, mais tous ces termes sont-ils interchangeables? Et Nicolas, de quoi parle-t-on en définitive?
Non, alors Christophe, effectivement, tu le sais en posant la question, tous ces termes sont loin d'être interchangeables, même si en vérité il existe une certaine confusion, on la comprend, hein, non seulement dans l'esprit du grand public, mais je dirais jusque dans l'écosystème de la blockchain. Ce flou, il est dû à différents facteurs, peut-être en partie l'utilisation persistante et parfois un peu inadaptée de terminologies issues de la première génération des cryptoactifs. À la variété intrinsèque des fonctionnalités hein, dont on va un petit peu parler, et parfois aussi, il faut bien le dire, à des frontières finalement assez perméables hein, entre grandes catégories. Alors, pour mémoire, mais je ne vais pas m'y appesantir, le substrat technologique des cryptoactifs, c'est le dispositif d'enregistrement électronique partagé, c'est-à-dire la traduction française juridique du Distributed Ledger Technology, DLT, qui est plus connu. La blockchain est un DLT et je pense que ma tentative de définition s'arrêtera là. Ce qui nous importe aujourd'hui, ce sont les actifs numériques ou cryptoactifs, si on se réfère à la terminologie européenne, qui sont précisément le produit direct du DLT. Alors, dans les projets de texte européens dont on reparlera, ils sont définis comme la représentation numérique d'une valeur ou de droits pouvant être transférés et stockés de manière électronique au moyen de la technologie des registres distribués ou d'une technologie similaire. Leur détention, elle se caractérise en principe par la possession d'une clé privée qui manifeste une forme de droit de propriété sur cet actif immatériel. Alors, les droits conférés par la propriété d'un cryptoactif sont extrêmement divers et dès l'origine, bien avant que le sujet ne soit appréhendé en droit, les acteurs ont cherché à les catégoriser. La valeur d'échange, c'est sans doute la première à avoir été appréhendée au travers du Bitcoin, hein, tout le monde s'en souvient, instrument réputé monétaire, on va dire monnaie virtuelle si on reprend la terminologie du juge européen, mais dont la volatilité traduisait en fait au moins autant un rôle de support spéculatif à l'époque, hein. C'est de cette génération que vient l'appellation d'Initial Coin Offering, qui en France au moins s'applique aujourd'hui justement à des actifs qui ne sont pas assimilables à des crypto-monnaies, à les comprendre. De nombreuses spéculations juridiques ont ensuite porté sur la reconnaissance possible d'un instrument financier en fonction, bien sûr, des caractéristiques attachées aux jetons. Ce sont les security tokens, des droits financiers ou de gouvernance, un traçage indiciel de valeur, que sais-je. Pas mal de régulateurs ont, dans un premier temps, eu un certain effroi et ont eu tendance à reconnaître, du coup, de manière très extensive cette qualification pour en réserver l'émission à des acteurs régulés. Bon, je pense que la page a un peu été tournée, de ce point de vue. Et puis reste enfin le grand pot commun, que les opérateurs ont appelé les utility tokens, donc qui comportent des droits d'usage extrêmement variés, gouvernance, accès à des services, à des avantages divers et variés, à des programmes informatiques, à des modes de certification, bref. Mais tout ceci restait finalement assez imprécis avant que le législateur français en particulier ne vienne poser quelques jalons et ancrer dans le droit les grandes nomenclatures que Pierre va nous détailler aussi aujourd'hui avec un œil plus juridique cette fois.
Merci Nicolas. Effectivement, il existe trois familles d'actifs numériques. Tout d'abord, la monnaie, La France connaît depuis l'année 2000, par la transposition d'une directive européenne, la monnaie électronique. Alors, la monnaie électronique, c'est une monnaie que l'on achète, ce qui veut bien dire qu'elle n'est pas par elle-même une monnaie légale, mais plutôt la représentation d'une valeur monétaire investie. Et surtout, c'est son autre caractéristique, la monnaie électronique est toujours remboursable en monnaie légale à sa valeur nominale. Alors, la seconde famille d'actifs numériques que tu as dévoilée concerne les utilities, c'est-à-dire les jetons créés en France en 2019 par la loi Pacte. En pratique, un jeton, c'est un droit d'usage d'un bien ou d'un service représenté sous forme numérique. La troisième famille d'actifs numériques concerne les instruments financiers. Alors là, c'est très simple. Les instruments financiers sont déjà définis par le Code monétaire et financier, qui, avec le Code de commerce, en détermine le régime juridique. Ils constituent des actifs numériques dès lors qu'ils sont représentés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé ou encore par la technique des registres distribués, comme tu l'as évoqué, c'est-à-dire par la technologie blockchain, ces vocables étant en quelque sorte interchangeables. Ces dispositifs permettent d'émettre, d'inscrire, de conserver ou de transférer les instruments financiers. Alors, ça veut dire aussi que le mode de représentation d'un actif numérique est neutre à l'égard des droits qui lui sont attachés. Alors, ce que l'on constate, c'est que les frontières entre ces familles d'actifs électroniques ou numériques sont parfois incertaines. La terminologie, tu en as évoqué un cas avec les ICO, mais la terminologie permet de le constater. Un jeton en français, c'est un token en anglais. Mais une Security Token Offering, la STO, ce n'est pas une offre au public de droit d'utilisation, mais bel et bien une offre au public d'instruments financiers, où l'on voit que le train d'évolution technologique qui laisse dans sa traînée des vocables dont le sens peut varier selon la langue concernée. Alors, on constate aussi que l'inventivité des créateurs d'actifs numériques pousse les concepts jusque dans leur lisière, et l'on sait que les frontières créent souvent des risques de conflits, enfin, je veux dire des conflits de qualification juridique. Par exemple, quelle réglementation appliquer à un jeton, un droit d'usage, qui donne accès au service d'un émetteur et qui permet également de voter certaines décisions sociales de cet émetteur? Ou encore, quel statut, quel régime juridique appliquer à un titre de capital numérique d'un opérateur de voyage qui permet aussi d'utiliser ses services, par exemple voyager dans des conditions préférentielles, dans des proportions probablement d'autant plus avantageuses que la quotité de capital souscrite serait importante. Voilà des cas particuliers que l'on peut rencontrer en pratique qui montrent bien que la variété des caractéristiques revêtues par les actifs numériques est à la mesure de l'intérêt qu'ils suscitent chez les acteurs, mais aussi des risques que cela soulève en droit.
Alors précisément, hein, au vu de l'extrême diversité dont tu as parlé, Pierre, dont a parlé Nicolas, Quels sont les choix, et ça c'est une question pour Nicolas, quels sont les choix qui peuvent ou doivent fonder l'encadrement juridique des actifs numériques, Nicolas?
Alors, Christophe, je pense qu'au vu de ce qu'on vient de dire, la réponse est nécessairement différenciée et elle est à plusieurs étages. Mais je crois que si on essaye d'introduire le propos et le cheminement des régulateurs, il y a trois principes fondateurs que Pierre a un petit peu effleuré dans ses propos. Le premier, c'est celui de la neutralité technologique. L'idée fondamentale, c'est que la qualification reconnue d'un actif issu de la blockchain, une fois qu'on est sûr de ce qu'on dit, et le régime juridique qui s'y applique ne doivent pas être altérés par le substrat technologique dont l'actif est issu. Alors, bien sûr, ce principe, il ne signifie pas forcément grand-chose lorsque les fonctionnalités mêmes qui sont associées à l'actif numérique sont entièrement nouvelles. Ça peut être le cas d'un utility, par exemple. Mais il prend tout son sens, comme l'évoquait Pierre à l'instant, lorsqu'on parle d'instruments financiers dont la représentation passe par la blockchain. Alors, il existe aussi nécessairement des limites à ce principe, des limites technologiques, en fait, et Pierre aura l'occasion d'y revenir dans un instant, d'ailleurs. Le deuxième principe, c'est la protection des investisseurs, on n'osera pas dire épargnant ici, hein, et celle de l'intégrité des circuits financiers. Alors, c'est évidemment l'une des missions fondamentales de tout régulateur financier que l'AMF, comme les régulateurs européens ou mondiaux, prennent très au sérieux. Il faut mesurer qu'au-delà de l'intérêt des investisseurs que tout le monde comprend, hein, il y a celui de l'intégrité des circuits financiers, avec des inquiétudes sur l'identification des donneurs d'ordre et des bénéficiaires d'opérations sur actifs numériques. tout ceci étant sous-tendu par quelques scandales qu'il y a eu notamment à l'origine avec le Bitcoin. Le sujet de la lutte contre le blanchiment est donc également central et les recommandations du GAFI témoignent de cette préoccupation avec l'intégration des virtual asset providers, c'est-à-dire l'équivalent de nos prestataires de services sur actifs numériques, dans le champ des opérateurs soumis au dispositif de lutte contre le blanchiment. Le troisième pilier fondateur, je dirais, c'est aussi l'attractivité des places concernées pour les opérateurs. Car en dépit de tout ce que je viens de dire, il y a évidemment un enjeu important de compétitivité, notamment des places financières, ce que le régulateur français a parfaitement appréhendé en formalisant en amont du cadre européen et d'une harmonisation son propre dispositif. Avec des choix, et c'est intéressant de le noter, qui témoignent aussi de la crainte de faire fuir les opérateurs. On en voudra pour preuve ou pour illustration le caractère optionnel de certains régimes d'encadrement dont on va reparler. Bon, l'opportunité n'en est pas absolument avérée, mais en tout cas, je pense que ça manifeste une forme aussi de crainte de faire fuir les opérateurs. Alors, ces considérations générales étant posées, il est compliqué de ne pas faire un focus un tout petit peu plus pointu sur les différents corpus juridiques qui gouvernent ou qui vont régir chacune des trois grandes familles d'actifs finalement qu'on a identifiées. Et pour commencer, Pierre, si tu peux nous dire ce qu'il en est dans le monde des instruments financiers de manière un petit peu plus détaillée.
Alors oui, merci Nicolas. Pour les instruments financiers, bon, ils n'ont pas été redéfinis, comme on l'a dit tout à l'heure, par la loi Pacte, et ils ne le seront pas plus par le projet de règlement européen MiCA, qui veut dire Markets in Crypto Assets. En fait, le projet de règlement européen MiCA vise les instruments financiers qui répondront à la définition de cryptoactifs, qui se caractérise par le fait qu'ils seront représentés par la technique des registres distribués, la technologie blockchain, les registres distribués étant définis par l'acronyme DLT. À cet effet, les instruments financiers peuvent, en France, être présentés, on l'a déjà dit, de manière numérique, en étant émis, inscrit, conservé et transféré dans un dispositif électronique d'enregistrement partagé, c'est-à-dire par la technologie blockchain, et ça depuis décembre 2018. Sauf que cette technologie a pour conséquence que toutes les transactions opérées dans ce cadre sont inscrites dans un registre décentralisé. Ce type de technologie n'est pas compatible avec l'émission d'instruments financiers cotés, qui doivent, eux, être admis aux opérations d'un dépositaire central et qui font, eux, l'objet d'opérations de règlement en livraison, dont les infrastructures opérationnelles et le cadre réglementaire n'ont pas été conçus pour être compatibles avec la technologie blockchain par essence décentralisée. Donc, en l'absence de réglementation européenne qui permettrait d'adapter les infrastructures de marché à la technologie blockchain, dénommée technique des registres distribués, donc DLT, dans les projets européens, les opérations sur instruments financiers numériques seront réservés aux seuls investisseurs qui accepteront de réaliser leurs opérations sur des instruments financiers exclusivement inscrits et transférables par cette technique, ce qui en réduirait sensiblement l'intérêt et la capacité de développement. C'est pourquoi un second projet de règlement européen est, lui, relatif aux infrastructures de marché et il prévoit la mise en place d'un régime pilote, d'ailleurs c'est une partie de sa désignation, un régime pilote des infrastructures de marché dites DLT, Distributed Ledger Technology, ou encore technologie des registres distribués. Ce régime est destiné aux infrastructures de marché qui recourent à la technologie DLT et qui bénéficieront de dérogations temporaires aux règles qui aujourd'hui empêchent les transactions sur des actifs transférables par la technique DLT ou dont le règlement livraison n'est pas compatible avec cette technique. Ce régime pilote permettra ainsi de lever, au moins partiellement, les contraintes actuellement associées aux dépositaires centraux et aux plateformes d'intermédiation régulées. Ce projet de règlement pilote devrait aussi permettre l'essor des cryptoactifs constitués d'instruments financiers de la technologie DLT, tout en préservant un niveau élevé de stabilité financière, d'intégrité des marchés, de transparence et de protection des investisseurs. Il devrait également permettre à l'Autorité européenne des marchés financiers et aux autorités nationales d'acquérir une expérience leur permettant de mieux cerner les opportunités et les risques spécifiques créés par les cryptoactifs, considérés comme des instruments financiers et par leur technologie sous-jacente. Alors Nicolas, en dehors de l'environnement des instruments financiers, qu'en est-il ?
Alors, si on sort de j'allais dire, l'écosystème, pour employer un mot cher aux opérateurs de la blockchain, si on sort de l'environnement ou de l'écosystème des instruments financiers, on s'arrête d'abord aux utility tokens, qui est en quelque sorte le token par défaut. un token fourre-tout dont le régime a été stabilisé en droit français par la loi Pacte et ses textes d'application entrés en vigueur en 2020. Ce qui est intéressant, je pense, c'est le processus d'élaboration de ce dispositif. On a commencé par s'intéresser au sujet des émissions d'actifs numériques et plus précisément à ces fameuses offres au public de jetons, les ICO. Sauf qu'encore une fois, justement, le régime français des ICO encadré par l'AMF ne s'applique pas aux monnaies virtuelles. On s'est rapidement aperçu ensuite que en ne traitant que le marché primaire, il manquait l'essentiel, c'est-à-dire le marché secondaire. Et donc, on a complété le dispositif initial par un encadrement assez fourni, assez détaillé des prestataires de services sur actifs numériques qu'on va appeler les PSAN. Alors, de quoi s'agit-il donc ? Sans qu'on rentre dans le détail ici, sur le marché primaire, l'émission de tokens ou de jetons utilitaires peut faire l'objet d'une demande de visa auprès de l'AMF sur la base du dépôt d'une note d'information qui est à l'image, on va dire, un peu simplifiée de la note d'information prévue en cas d'offre au public de titres financiers et avec des délais d'instruction qui sont d'ailleurs identiques. Cette note, elle intègre et elle encadre le fameux white paper que les émetteurs d'actifs numériques avaient déjà pris l'habitude de publier avant l'adoption de la loi Pacte. Elle intègre aussi un dispositif de prévention et de surveillance de LCBFT, donc de lutte contre le blanchiment, que l'émetteur s'engage à mettre en œuvre. Alors, la demande de visa, elle n'est pas obligatoire, mais elle emporte le droit de démarcher les souscripteurs potentiels, démarchage sinon interdit, ce qui en pratique est quand même un moyen redoutable de rattraper les émetteurs, au moins lorsque l'appel de fonds suppose un appel au marché. Ça, c'est pour le marché primaire. En aval, la loi Pacte miroirise en partie, en tout cas, les services d'investissement prévus par la directive MIF en matière d'instruments financiers avec certaines différences. Il faut souligner que contrairement aux ICO, la portée des services concernés s'étend à l'ensemble des actifs numériques cette fois-ci, c'est-à-dire crypto-monnaies comprises. Alors, on a 4 services qui font l'objet d'un enregistrement obligatoire, celui de la gestion d'une plateforme de trading, celui d'échange de tokens contre monnaie légale, celui d'échange d'actifs numériques contre autres actifs numériques et enfin celui de conservation des actifs qui est absolument fondamental. Ce dernier service, il consacre d'ailleurs une forme de paradoxe car finalement, en matière de jetons non instruments financiers, la conservation est prévue. Alors que justement, et Pierre y reviendra, s'agissant du régime des instruments financiers émis sous forme de jetons, il n'y a pas jusqu'ici de service juridique de conservation puisque n'y sont éligibles que les titres nominatifs. Les autres services qui sont prévus, le conseil en investissement, la réception transmission d'ordre, la gestion de portefeuille, le placement, sont tous inspirés des services d'investissement, mais ils font l'objet d'un agrément optionnel qui peut s'ajouter ou se superposer aux enregistrements obligatoires. Alors, il y a bien quelques trous dans la raquette qui illustrent, je trouve, assez bien le cas des NFT. Les NFT, les Non-Fungible Tokens, ce sont des tokens pour lesquels un intérêt fort et très médiatisé, d'ailleurs, s'est manifesté récemment. Il s'agit finalement de la représentation unique d'un droit spécifique et individualisé ancré sur un actif unique. Les utilisations sont soit sur le net, on a vu des œuvres virtuelles, ou bien sur des biens physiques également, dont ils peuvent par exemple attester de l'authenticité, par exemple pour un objet de luxe. Donc il y a un effet de mode autour de ces NFT, il faut bien le dire, et on s'est aperçu à cette occasion que la loi française, n'ayant pas pris le soin d'exclure de son champ d'application les tokens non fongibles, on se trouve dans une situation un peu absurde où à la lettre des textes, chaque création de token pourrait être assimilable à une émission qui, si elle ne fait pas l'objet d'une demande de visa, ne pourra pas non plus théoriquement d'ailleurs faire l'objet d'un démarchage auprès des clients. Bon, de nos échanges avec l'AMF, on comprend que ce vide juridique a vocation à être comblé assez rapidement. Il le sera en tout état de cause par le droit européen au vu de la rédaction du projet de règlement MiCA. Alors justement, en quelques mots, je vois que l'heure tourne. Ce règlement MiCA, que prévoit-il pour les tokens utilitaires ? Comme le cadre français, il réglemente l'émission, donc le marché primaire, mais de manière différente à 2 égards au moins. En premier lieu, la notification au régulateur du white paper est obligatoire et non pas optionnelle, comme chez nous. Mais en même temps, elle n'est pas constitutive d'une demande d'autorisation préalable à proprement parler. Le white paper doit être publié sur le site de l'émetteur en même temps qu'il le notifie au régulateur, mais c'est tout. Deuxièmement, comme le cadre français, le projet européen réglemente les prestataires de services sur cryptoactifs, avec ici encore un régime qui n'est pas optionnel, mais appelle un agrément obligatoire pour l'ensemble des services concernés. Il y a donc une différence ici aussi de périmètre des règles de lutte contre le blanchiment, puisqu'on voit bien que le champ optionnel français permet à certains acteurs à date de sortir de tout ce dispositif d'encadrement. Alors, l'avantage escompté d'un dispositif européen en dehors du level playing field concurrentiel très attendu, c'est évidemment la reconnaissance mutuelle découlant de l'harmonisation et donc l'existence des fameux passeports qu'on connaît par ailleurs qui permettent à un émetteur ou à un prestataire habilité de se déployer sur l'ensemble du territoire de l'espace économique européen. Quand est-ce qu'il faut compter sur l'entrée en vigueur de ce cadre? D'après nos échanges avec l'AMF, il n'y a pas encore beaucoup de visibilité sur le calendrier d'adoption, mais probablement il serait déraisonnable de l'escompter avant 2023, voire 2024. Reste que MiCA ne couvre pas seulement les utility tokens dont je viens de parler, il couvre aussi d'autres actifs, toujours non instruments financiers, mais que sont cette fois les monnaies virtuelles, et notamment la nouvelle génération de stablecoins. C'est ce dont va nous parler maintenant Pierre.
Merci Nicolas. Alors, avant de parler des stablecoins dans la version du projet de règlement européen MiCA, juste un retour sur la crypto-monnaie que l'on connaît déjà dans notre réglementation et qui en fait apparaît comme un peu le parent pauvre hein, de la réglementation actuelle, ce qui témoigne de l'embarras du législateur. La crypto-monnaie de première génération était créée en France donc par la loi Pacte, dont on a déjà parlé rapidement, qui a défini de manière négative un actif numérique qui représente une valeur et préfère la caractériser par sa fonction et son processus de représentation. Cette crypto-monnaie de première génération se définit ainsi comme toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie en cours légale et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie. Bon, mais qui est accepté par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange, ça c'est sa fonction, et qui peut être transféré, stocké ou échangé électroniquement, c'est son mode de représentation. En fait, cet actif numérique qui représente une valeur d'échange, c'est une monnaie qui refuse de dire son nom, qui a été créée en quelque sorte pour mémoire, puisque la loi Pacte a omis de préciser la méthode pour en réaliser l'émission. Alors, dans le cadre du projet de réglementation, du règlement européen de MiCA, pardon, la crypto-monnaie de deuxième génération comporte deux éléments. Tout d'abord, les jetons de monnaie électronique, Electronic Money Token, qui sont définis comme un moyen d'échange et de valeur par référence à une seule monnaie, qui a cours légal, mais qui vise aussi à conserver une valeur stable. Le second cryptoactif financier qui sera créé par le projet européen de règlement MiCA, c'est le jeton se référant à un ou à des actifs. C'est un type de cryptoactif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur de plusieurs monnaies qui ont cours légal, à une ou plusieurs matières premières, ou à un ou plusieurs cryptoactifs, ou à une combinaison, donc à un panier de tels actifs. Ces deux définitions se rapportent à des cryptoactifs qui visent à conserver une valeur stable, ce que l'on désigne sous la référence de stablecoins. Le premier étant défini comme moyen de paiement par référence à une seule monnaie, le second par référence à un panier d'actifs ou de monnaie. Alors que constate-t-on? D'une part, que ces nouvelles définitions vont se substituer à la définition en négatif de la crypto-monnaie donnée par la loi Pacte. Mais bon, pas forcément avant 2023, peut-être 2024. D'autre part, on constate que la frontière entre le jeton de monnaie électronique, selon le projet MiCA, et la monnaie électronique, comme on connaît déjà en France, reste à ce stade assez indistincte. Sauf peut-être à considérer que la monnaie électronique a, elle, une définition plus large que le jeton de monnaie électronique qui, lui, ne peut être représenté que par la technologie des registres distribués, donc par la technologie blockchain. On constate également qu'il y a un fort point commun entre la monnaie électronique de première génération et le jeton de monnaie électronique, puisque dans tous les cas, leur détenteur dispose d'une créance de remboursement contre l'émetteur. Et d'ailleurs, sur ce point, le projet de règlement MiCA prend soin d'interdire l'émission de jetons de monnaie électronique non assortie d'un droit de créance contre son émetteur. Ce qui veut bien dire que le jeton de monnaie électronique de deuxième génération restera une monnaie qui s'achète, une sorte de produit tenant lieu de monnaie, sans en être une tout à fait. Alors, en définitive, on est encore dans un maquis juridique où coexistent des projets réglementaires européens avec des normes existantes, parfois bien stabilisées, mais aussi avec des zones de non-droit.
Oui, alors justement, dans ce maquis juridique dont tu parles, Pierre, alors, peut-être Nicolas, tu peux nous indiquer si les acteurs, est-ce qu'ils sont nombreux à se hasarder déjà, et quels sont leurs projets et leurs besoins en matière d'accompagnement?
Oui, alors je pense que Christophe, le très saillant, c'est finalement une appropriation très rapide d'un écosystème initialement réservé effectivement à des initiés par l'environnement bancaire et financier notamment et le monde entrepreneurial. En particulier les institutions financières, et j'y compte les gérants d'actifs, des traders, mais aussi des banques dont le rôle de dépositaire et de conservateur est finalement aussi mis en cause ou en tout cas un petit peu challengé avec le rôle de certificateur de tiers de confiance joué par la blockchain. Quant aux corporates, ils ont également vu, je pense, dans l'émergence de la blockchain, le moyen de lever des fonds sans grever leur endettement ou sans diluer l'actionnariat, parfois d'ailleurs en s'approchant un peu dangereusement, on va dire, d'un risque de requalification. Alors, du point de vue du praticien et du conseil, c'est vrai que les demandes d'accompagnement qui sont formulées par les clients ont considérablement évolué dans un temps assez rapide, au gré de la maturation des projets et aussi, pour être tout à fait transparent, dans une certaine mesure aussi en raison des effets de mode. Je parlais des NFT, par exemple, à l'instant. Alors, Pierre, je ne sais pas si tu veux nous faire remonter, entre guillemets, à la genèse pour qu'on mesure un peu la chronologie des événements.
Oui, alors, ce qu'on constate s'agissant des besoins d'accompagnement des opérateurs, c'est que d'abord, le train de la technologie va toujours plus vite que l'accompagnement légal et réglementaire, ça c'est clair. Avant la loi Pacte, il n'existait aucun corpus juridique, ni en France, ni au niveau européen, sur lequel prendre appui pour l'émission des ICO, les Initial Coins Offering, donc les émissions d'offres publiques de jetons utilitaires. Alors à l'époque, on avait essayé de voir s'ils ne pouvaient pas s'apparenter à des biens divers, mais ça ne paraissait pas vraiment convaincant en droit. Et puis, nous avons eu les jetons en mai 2019. Ce que je veux dire, c'est plutôt que la France était l'un des premiers pays qui, en mai 2019, et au niveau mondial, pour ainsi dire, dans le cadre de la loi Pacte, a mis en place une procédure de visa optionnelle par l'AMF, que tu as évoqué, Nicolas, pour émettre des jetons, donc des droits d'utilisation. Et c'est le 17 décembre 2019 que l'AMF a, pour la première fois, visé le document d'information d'une offre publique de jetons.
Et je salue Pierre, désolé, c'est peut-être comme le temps presse, voilà, en resserré parce qu'on s'approche de la zone. Voilà. Non, mais voilà.
Alors, je voulais saluer Margot Fries qui a fait partie aujourd'hui de PVC Société d'Avocats et qui avait activement participé à cette première offre publique de jetons dans le cadre français de la loi Pacte. Alors, ce nouveau dispositif d'émission de jetons a fait l'objet d'une utilisation limitée, alors même qu'il plaçait la France à la pointe de l'évolution réglementaire. En pratique, on a également pu observer que le marché a presque aussitôt manifesté un engouement pour les émissions de STO, les Security Token Offering, ce qui sont non pas des émissions de jetons, mais bien une émission d'instruments financiers, des actions ou des obligations. J'en ai presque terminé. C'est par le projet Forge que sont apparus en 2019 les premiers instruments financiers numériques inscrits sur un dispositif d'enregistrement électronique partagé, donc dans le cadre de la technologie blockchain. Il s'agissait en avril 2019 d'une émission par Société Générale SFH, filiale de Société Générale, de 100 millions d'euros d'obligations représentées et enregistrées sous forme numérique au moyen de la technologie blockchain. Cette émission a été intégralement souscrite par Société Générale. Voilà, j'en ai fini. Alors Nicolas, qu'en est-il en dehors
des... Oui, pour prendre la suite et accélérer peut-être un peu le train de l'histoire, ce qu'on peut constater, c'est que donc après la période ICO, puis la période STO, on a eu une période, on va dire, de foisonnement plus varié avec, dans un monde non instrument financier, un intérêt croissant pour les stablecoins dont Pierre vous a parlé, aussi bien par des acteurs privés, des grandes enseignes, des organismes parapublics, et aussi un intérêt marqué pour le régime PSAN et notamment, évidemment, les activités de trading. Alors là, pour le coup, coup, les enregistrements PSAN, on en dénombre 18 aujourd'hui. Je crois savoir qu'il y a pas mal de dossiers en cours d'instruction. Donc, c'est un régime qui appelle quand même, qui suscite quand même un intérêt assez marqué. De plus en plus, ce qu'on voit finalement, c'est qu'on commence à travailler sur des projets complexes dont la composante blockchain est une brique importante, mais pas toujours un objectif en soi. Par exemple, on a travaillé sur des levées de fonds classiques, mais qui comportaient une poche complémentaire de levée, par exemple, d'un utility token orienté vers des investisseurs de détail versus la levée de fonds traditionnelle destinée aux investisseurs institutionnels. On a aussi travaillé sur la structuration d'un projet de titrisation obligataire. Là aussi, il y avait une couche évidemment blockchain puisque les obligations sont censées être émises par ce biais-là. Mais en réalité, c'était une composante parmi d'autres d'un projet aux dimensions et aux enjeux beaucoup plus vastes. On a aussi vu des marques d'intérêt de la part de clients pour l'adossement de projets de commercialisation, par exemple, d'articles de luxe à des émissions de NFT. Et puis enfin, et c'est le dernier point, Christophe, promis, on a également accompagné des acteurs qui essayent de jouer sur l'hybridation, je dirais, des caractéristiques de l'actif numérique. Alors, c'est un sujet particulièrement délicat et qui nécessite une vraie réflexion juridique, car il soulève évidemment des risques graves de requalification. Et pour illustrer mon propos, j'en termine là. Je rappellerai que dans le projet MiCA, le papier blanc qui doit être notifié au régulateur doit contenir une démonstration des raisons pour lesquelles l'émetteur estime ne pas tomber dans la réglementation applicable aux instruments financiers. Donc, à bon entendeur, salut. Hein. Mais en tout cas, tout ceci montre, s'il en était besoin, que l'exercice fondamental de qualification juridique est encore très loin d'être épuisé, Christophe.
Bon, merci beaucoup parce que ce sont des sujets passionnants, ce sont des sujets complexes et c'est des sujets qui concernent toutes les activités et qui vont infuser de plus en plus tous les business. Donc, merci à vous et on aura sans doute l'occasion de redécliner un certain nombre de composantes de vos interventions. Alors voilà, cette matinale touche à sa fin. C'était une matinale inédite hein, de près de 3 heures. Avec Suzy, on est vraiment, on félicite tous nos intervenants avec cette complexité, cette variété. C'était vraiment génial. Nous espérons que cette matinale vous a plu, qu'elle a répondu à un certain nombre de questions. Bien sûr, nos équipes se tiennent à votre disposition pour approfondir certains points. Nous aurons à la rentrée d'autres événements. Nous comptons vous y retrouver nombreux. Alors voilà, vous pouvez voir à droite de votre écran un questionnaire de satisfaction. Donc, c'est toujours utile d'avoir vos retours. Et un grand merci aussi à notre organisatrice en chef, Sophie Perrier. Voilà. Merci à tous.
Merci à tous. À très bientôt.